France Culture. France Culture, sans préjugés. Nathan Dever.
En ce week-end de la Toussaint, historiquement lié dans la culture chrétienne, certes à la fête des saints, mais surtout pour le 2 novembre, à la célébration des défunts, la question de la place qu'occupe la mort dans notre société sécularisée mérite d'être posée. Quelle relation les vivants de notre époque entretiennent-ils avec l'outre-tombe ? Celle des disparus qu'ils chérissent, autant que celle de leur propre trépas à venir. Faudrait-il décrypter le processus de la modernité comme une tentative d'apprivoiser la mort ou de la refuser ? À cet égard, que penser de l'essor, certes encore marginal mais non moins significatif, d'un mouvement qui, à la croisée des fantasmes futuristes et d'une vision technosolutionniste, aspire tout simplement à abolir la mort ? Le mouvement transhumaniste, dont les slogans semblent tout droit sortir d'un film de science-fiction. Ce courant insaisissable marque-t-il le parachèvement concret de ce que le philosophe Ferdinand Alquier nommait le désir d'éternité, ou bien est-il la version dystopique d'un rêve remontant à la nuit des temps ? La volonté de dépasser les limites de la perfectibilité humaine constitue-t-elle l'acmé de l'humanisme, une célébration radicale de l'élan de transcendance qui nous est inhérent ? Faut-il la tenir au contraire pour une forme d'hubris contemporaine reposant sur une négation des limites inhérentes à notre condition ? Alors que les porte-voix du transhumanisme entendent, du côté de la Silicon Valley, imposer une nouvelle conception, non seulement de notre existence, mais aussi de la transmission entre les générations et de l'égalité entre les individus, ce sont les soubassements métaphysiques, scientifiques et sociopolitiques de ce courant qu'il importe d'interroger. Le transhumanisme, une immortalité idéologique ou utopique ? J'aurai le plaisir d'en débattre sans préjugés, aux côtés du philosophe Frédéric Worms, du sociologue Nicolas Le Dévédec et de l'archéo-anthropologue Fanny Beaucantin.
France Culture, sans préjugés, Nathan Dever.
Bonjour Nicolas Le Dévédec.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, politologue, professeur agrégé à HEC Montréal et auteur de l'ouvrage Le Transhumanisme dans la collection Que sais-je aux éditions PUF et du mythe de l'humain augmenté aux éditions Éco-Société. Bonjour Fanny Beaucantin.
Bonjour.
Vous êtes archéo-anthropologue, spécialiste des rites funéraires, chargée de recherche au CNRS au laboratoire Temps à Nanterre et auteur de La mort au CNRS Éditions. Et bonjour Frédéric Worms.
Bonjour, merci vous êtes, de votre invitation.
Bah merci à vous, vous êtes philosophe, directeur de l'École Normale Supérieure, spécialiste de Bergson, mais auteur évidemment d'une œuvre philosophique importante, notamment de « Pour un humanisme vital » aux éditions Odile Jacob, de « La vie, qu'est-ce que ça change ?» aux éditions Labor et Fides et d'autres livres. Et les auditeurs de France Culture vous connaissent bien puisqu'ils vous retrouvent du lundi au vendredi à 10h52 dans « Le pourquoi du comment philosophe ». À l'occasion du week-end de la Toussaint, nous voulions, quand nous la préparions avec Aline Biette, questionner à travers ce week-end, qui a une histoire historiquement initialement liée dans la culture chrétienne et catholique à la fête de la célébration de tous les saints, créée par le pape Boniface IV en 610, et progressivement est apparue à la marge de cette fête qui est très connue, une deuxième fête, le 2 novembre, qui est la fête des morts, et qui a été instaurée au XIIIe siècle. Et nous nous disions qu'à travers cette fête-là, et à travers l'évolution de cette fête, c'était peut-être l'occasion d'interroger la place concrète et la place symbolique qu'occupe la mort dans notre société. Fanny Beaucantin, qu'est-ce que l'évolution, l'histoire de la fête des morts raconte de la place du trépas dans notre imaginaire collectif et dans nos pratiques rituelles ?
Oui, alors c'est une vaste question. Effectivement, la date du 2 novembre, elle a été adoptée au tournant du premier millénaire pour fêter de façon collective nos morts. Et en cela, elle se démarque un petit peu des autres commémorations des morts qui sont plus individuelles et qui suivent aussi le rythme du deuil après les funérailles. Et donc cette fête collective, elle est intéressante parce que justement, elle est fête festive. Elle honore tous les morts et elle se place dans le monde chrétien à la fin du cycle agricole, au moment de l'entrée dans l'hiver et donc du renouvellement. Cette fête des morts, elle s'inscrit dans des racines bien plus anciennes et notamment dans une tradition celte qu'on appelait la fête de Samonios, qui célébrait le début d'une nouvelle année. Et à cette occasion, à la veille de cette fête, on était autorisé à faciliter le retour des morts pour une communion des morts et des vivants ensemble, le temps d'une nuit. Cette fête se retrouve donc chez les Celtes, elle se retrouve également dans le monde antique. Et c'est poursuivi avec un syncrétisme de tradition dans de nombreuses sociétés et est actuellement, aujourd'hui, extrêmement vive en Amérique du Sud et également en Asie. Et donc, elle est tout à fait particulière. Justement dans cette idée qu'on facilite le retour des morts. Les morts ont le droit, à cette occasion, de traverser les mondes et de revenir dans le monde de vivants pour un partage, de repas, un partage de fêtes, etc. Après, cette fête qui est annuelle et qui concerne tous les morts dans une entité collective, elle s'enracine aussi dans une façon d'honorer nos morts qui est beaucoup plus ancienne, qui apparaît dès le paléolithique avec les pratiques funéraires qui sont le traitement du corps mort, son enterrement, puisqu'on en a des traces dès 120 000 ans. Donc on sait que c'est extrêmement ancien, ce traitement des morts. Aucune société humaine ne laisse ses cadavres sans traitement. Et ce traitement, non seulement permet de s'occuper de nos morts, mais également, surtout, de soutenir les vivants dans leur accompagnement aux morts et essayer de trouver un sens à cette mortalité qui finalement n'est jamais vraiment acceptée mais dont on doit s'accommoder pour parce que l'on sait que finalement c'est cette mortalité qui permet le renouvellement de la vie.
Et si on fait une évidemment, je suis bien conscient de vous poser une question très générale. Mais par exemple, depuis un siècle et demi, dans la pratique, dans une société comme la société française, de cette fête des morts, dans les rites qui sont associés à cela, et dans les rites qui sont associés aussi peut-être à l'inhumation, aux enterrements, etc., est-ce que vous dégagez des grands moments d'évolution, de bascule, qui nous permettraient de définir une nouvelle pratique, un nouveau rapport à la mort ?
Mais donc les pratiques funéraires ont toujours été au centre en fait du socle de la construction sociale. Ces pratiques sont importantes puisqu'ils permettent à travers le rite d'expliquer la mort, de s'en accommoder et du coup également à travers les rites de reconstituer la solidarité collective, d'y faire face et s'il n'est pas possible de maintenir l'individu dans la vie, au moins l'idée est de maintenir la collectivité, la communauté dans la vie éternelle, le renouvellement systématique de l'humanité. C'est ça en fait l'idée du rite. Et donc il y a un culte des morts qui permet en fait ce culte des morts permet de gérer la contradiction qu'il existe entre la disparition d'un être cher et le fait qu'il soit toujours présent dans notre mémoire. Et donc les rites traditionnels permettent de faire face à cette contradiction en disant les morts en fait effectivement ils ne sont pas vraiment morts, ils existent encore mais ils existent ailleurs, c'est-à-dire qu'ils continuent à vivre mais ailleurs. Et donc voilà, et dans cet ailleurs ils permettent aussi de faire l'intermédiaire entre le divin et nous, et donc on peut les convoquer pour participer aussi à notre quotidien. Ce culte des morts, en fait, on voit qu'il y a des alternances dans le monde humain où il est plus ou moins présent, où les morts sont plus ou moins convoqués ou oubliés. Et il y a des périodes où il y a une renaissance du culte des morts. Par exemple, au XIXe siècle, il y a un vrai attachement au cimetière, avec l'apparition aussi des concessions permanentes qui permettent de s'attacher à un lieu, ce qui n'était pas le cas avant, et un vrai développement de ce culte des morts qui est estompé à la suite de la Première et la Seconde Guerre mondiale, notamment parce que la masse des morts, et puis la déshumanisation aussi bien de la vie que de la mort, à travers notamment des camps d'extermination, fait qu'il y a un véritable souhait d'un retour à la vie le plus vite possible. En oubliant un petit peu nos morts, il y a beaucoup d'éléments hein, qui expliquent aussi qu'il va y avoir petit à petit un amenuisement du culte des morts et de l'importance que vont prendre les rites funéraires dans la société actuelle.
Alors justement, dans la place que la mort occupe dans la société actuelle, quand on préparait l'émission avec Aline Biette, on se disait que c'était une question peut-être trop large, trop abstraite, pour être posée frontalement. Et c'est pour ça que nous avons eu l'idée de la poser presque en négatif, presque à revers, en interrogeant ce mouvement qui est encore méconnu, qui est un objet conceptuel, peut-être qu'il faut manier avec certaines précautions, qui s'appelle le transhumanisme, et dont un des aspects est précisément la promesse d'abolir scientifiquement la mort, ou en tout cas d'essayer de construire des implants cérébrales, des projets scientifiques pour abolir la mort. Nicolas Le Dévédec, ce mouvement de pensée que vous avez, dont vous avez retracé l'histoire récente dans votre livre Le Transhumanisme, comment vous pourriez le définir le fait qu'un petit cercle de pensée des années 70 ait pris autant d'importance aujourd'hui ?
Oui, c'est effectivement une question importante, parce que la question du transhumanisme n'est pas si confidentielle finalement aujourd'hui. C'est vrai que c'est un mouvement de pensée qui s'est quand même beaucoup développé. Peut-être rappeler que c'est vrai que c'est un mouvement qui, au début, a pris son essor autour des années 80-90 aux États-Unis, et qui s'est depuis quand même très largement diffusé. Il faut rappeler l'ambition centrale des adeptes du transhumanisme, augmenter les performances, les capacités humaines, aussi bien physiques qu'intellectuelles, avec les nouvelles technologies. Et pour les transhumanistes, dès le début, il s'agit clairement de libérer l'être humain de ses chaînes biologiques. C'est une des expressions qu'on retrouve dans leurs écrits, en vue d'accéder rien moins qu'à un nouveau stade de l'évolution, qu'on appelle tantôt le post-humain, tantôt l'humain augmenté. Mais c'est vrai que la limite ultime à repousser pour les transhumanistes, c'est celle de la mort, celle du vieillissement. C'est la revendication centrale au sein du mouvement depuis ses débuts. Et depuis les débuts, même un peu avant les années 80-90, on retrouve des précurseurs du transhumanisme, surtout aux États-Unis. Dès les années 60, je pense notamment à Robert Ettinger, qui est un professeur de physique, qui, on le considère comme le père de la cryonie, qui a un projet technoscientifique qui vise à finalement congeler les corps pour vraiment les garder dans l'espoir de les ressusciter dans le futur. Il a publié d'ailleurs en 1962 son ouvrage « La perspective de l'immortalité ». Donc c'est vraiment une revendication centrale du mouvement qu'on va retrouver après, dans les années 80, avec Max Moore, de son vrai nom Max O'Connor, qui est une figure centrale du mouvement. Puis aujourd'hui, le mouvement, qui s'est beaucoup développé. Alors, sans doute dans le contexte, on ne peut pas en faire le silence, mais c'est vraiment le lien entre transhumanisme et capitalisme, techno-capitalisme, parce qu'aujourd'hui, ça connaît un impact énorme, et c'est pour ça qu'on connaît le transhumanisme à travers, une multitude de projets, d'entreprises, de start-up, principalement au sein de la Silicon Valley, qui est capitaliste sur les idéaux de vie éternelle, d'humain augmenté. Et il y a beaucoup de projets qui vont en ce sens. On peut nommer, pour exemple, notamment, je pense à la firme Calico, qui a été une des premières sociétés de biotechnologie fondée en 2013 par, anciennement Google, maintenant c'est le groupe Alphabet. Mais donc cette société a pour but de lutter contre le vieillissement, avec un projet, celui de tuer la mort, de mettre à mort la mort. C'était vraiment l'ambition affichée. Et puis, on retrouve, c'est quand même de plus en plus médiatisé. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, je pense notamment, qui a été aussi très médiatisé, le cas de l'entrepreneur Brian Johnson. Il y a un documentaire qui lui a été consacré, justement, « Ne mourrez pas, l'homme qui veut vivre éternellement », qui est un entrepreneur donc qui consacre sa vie aujourd'hui à vraiment mettre en place un régime anti-âge radical pour rajeunir son corps. Bref, c'est extrême, mais c'est porté par beaucoup d'acteurs aujourd'hui et ça se diffuse au sein de la société.
C'est très intéressant cet aspect à la fois philosophique dans l'histoire du transhumanisme, ce philosophe Max Mohr qui était l'initiative de ce courant, et capitaliste. Et justement, Frédéric Worms, est-ce que vous avez l'impression que dans la mesure où le transhumanisme se présente aujourd'hui comme un business, avec des grandes entreprises, des milliardaires qui veulent en faire un véritable commerce, qu'il met en cause l'universel humain, à savoir l'idée que nous devrions tous être égaux face à la mort et que la mort est le lieu même de notre égalité.
Oui, merci de cette question. Moi, avant d'y venir, peut-être un mot de réaction. C'est vrai que pour les humains, la relation à la mort est toujours quelque chose d'ambivalent. D'un côté, il faut accepter qu'elle est là, qu'elle est négative, et accepter sa place, et en même temps, continuer d'y résister. Et c'est très important. Et aussi, normalement, ça n'est jamais seulement une mort individuelle ni collective, c'est aussi relationnel. C'est les défunts proches, la fête de la Toussaint. C'est aussi précisément cette individualisation dans le collectif, cette dimension relationnelle de la vie et de la mort humaine, avec toujours cette importance de maintenir l'opposition à ce négatif tout en l'acceptant, parce que la vie ne peut pas se définir sans son contraire et sans cette ambivalence, beaucoup plus même qu'une ambiguïté. Et c'est vrai qu'on le voit bien dans tout ce qui a été dit, qui était passionnant, on voit bien qu'il y a en même temps dans l'imaginaire humain de la mort, comme disait Ricoeur dans Vivant jusqu'à la mort, qui parlait aussi de cette masse de cadavres des camps d'extermination, dans l'imaginaire et dans la réalité qu'engendre cet imaginaire, il y a deux fantasmes symétriques inverses, c'est-à-dire le massacre indéterminé, la mort en tant qu'issue de la violence humaine, et d'un autre côté, le dépassement de la mort. Et c'est vrai que là, je rejoins votre question, ce fantasme de dépasser la mort qui est quand même un effet abusif, au fond, excessif, mais inévitable peut-être, dans l'imaginaire, encore une fois, de notre opposition à la mort. Ce fantasme, aujourd'hui, il prend la forme, en effet, d'une entreprise qui se croit purement métaphysique ou purement je ne sais quoi, mais qui, en réalité, mobilise des forces énormes, des puissances technologiques inouïes, un enjeu économique énorme. Donc, ce mélange de technologie et d'économie qui est un peu masqué. On se dit, c'est d'abord une aspiration métaphysique, des spéculations, pourquoi pas, et après tout, pourquoi est-ce que ce serait pas le remède miracle, pourquoi est-ce que ça continuerait pas la médecine par d'autres moyens? En fait, ça masque deux choses, cette puissance qui fait que tout le monde n'y aura pas accès, donc cette question de justice. Et puis aussi, quand même, en réalité, pour moi, le transhumanisme, c'est le contraire de la médecine. La médecine consiste à s'opposer à des causes avérées de mortalité, à réduire, au fond, ces pathologies et ces souffrances pour les humains en général, et non pas à viser la perfection. L'éthique médicale, c'est d'éviter de pire, c'est pas de chercher la perfection qui engendre toujours la guerre en réalité. Donc il y a ces fantasmes, ils sont inévitables, mais aujourd'hui, effectivement, dans ce moment symbolique un peu particulier, dans une société par ailleurs quand même pluraliste, sinon laïcisée, au moins il y a toute une coexistence de croyances, comment retrouver un minimum d'équilibre sur ces questions, c'est un enjeu absolument majeur.
France Culture, sans préjugés. Nathan Devers.
Je ne sais pas si Claude Lanzmann était transhumaniste au sens où nous pourrions employer ce terme aujourd'hui, mais au micro de France Culture en 2018, il affirmait de façon incroyablement sincère son refus, presque enfantin, radical, de la mort.
S'il y a une chose au monde qui me scandalise irrémédiablement, c'est le fait d'avoir à mourir. Je suis profondément contre. Je n'aime pas la musique et je n'aime pas mourir. Vous pouvez dire ça de moi.
Pardon à Aline Biette que la phrase « je n'aime pas la musique » soit prononcée dans notre émission, mais écoutez Claude Lanzmann, c'est très intéressant parce que Claude Lanzmann était philosophiquement humaniste, disciple de Sartre au temps moderne, et aujourd'hui, tout ce qu'on aimerait questionner, c'est le préfixe « trans » du transhumanisme. Quand ce mouvement-là prétend aller par-delà l'humanisme, est-ce que c'est pour l'accomplir, est-ce que c'est pour le nier? Alors, Nicolas Ledévédec, dans votre livre, vous proposez une généalogie, par-delà l'histoire du transhumanisme, une généalogie presque conceptuelle. Vous identifiez trois sources, une source qui est le mouvement cybernétique, une autre qui est le scientisme ou le culte du progrès tel qu'il pouvait exister au XIXe siècle chez les positivistes, et une troisième que vous identifiez à l'humanisme classique, celui de la Renaissance, mais surtout celui des Lumières. Est-ce que vous diriez qu'il y a une continuité entre cet humanisme philosophique et le transhumanisme dont on parle aujourd'hui?
Oui, alors mais je pense qu'il y a à la fois une continuité et une rupture. Je pense qu'il y a une continuité, c'est pour ça que l'humanisme des Lumières, c'est un des premiers jalons. Ça, les idéaux transhumanistes s'enracinent dans une certaine mesure dans l'humanisme des Lumières par l'imaginaire de maîtrise de la nature. Cette idée qu'on peut, sa fameuse phrase de Descartes, se rendre comme maître et possesseur de la nature, ça concerne pas seulement la nature extérieure à l'être humain, mais finalement, c'est l'ambition aussi déjà de contrôler le corps humain, de repousser les limites du corps humain. Ça, on le voit dans l'histoire de l'humanisme. Parmi des penseurs, on cite souvent le cas de Condorcet. Condorcet, dans toute la quête sur le progrès, finalement, évoque déjà au XVIIIe siècle l'idée qu'on pourrait, dans l'avenir, dans le futur, possiblement, repousser les limites du vieillissement et de la mort. Donc, il y a une continuité entre l'humanisme et le transhumanisme, mais, et ça, moi, c'était l'objet de mes premières recherches, j'ai consacré ma thèse de doctorat en sociologie, en sciences politiques sur cette question, il y a une rupture aussi avec l'humanisme des Lumières. Il y a une rupture en particulier, à mon sens, à l'égard de l'ambition politique et émancipatrice des Lumières. Pour les Lumières, améliorer la condition humaine, c'est aussi un projet d'autonomie politique. C'est le projet d'améliorer nos conditions de vie sociale, de s'émanciper des tutelles religieuses, sociales. On pourrait dire qu'il y a dans le projet de perfectibilité humaine, cher aux Lumières, il y a un idéal révolutionnaire, un projet démocratique. Or, précisément, pour moi, le transhumanisme évacue entièrement cette dimension politique. Il y a même un renversement de ce point de vue assez radical, parce que dans le transhumanisme, ce qu'on voit dans tous les discours des transhumanistes, il ne s'agit pas de changer le système, de transformer politiquement notre monde. Il s'agit plutôt de changer l'être humain, de modifier l'être humain techniquement en vue de l'adapter au modèle de société. Donc c'est un renversement. Pour les transhumanistes, c'est toujours l'être humain qui est en quelque sorte pose problème biologiquement, qui est la source du problème, jamais notre modèle de société capitaliste. Et de ce point de vue, on peut voir quand même qu'il y a vraiment, je dirais, donc une rupture, mais il y a vraiment, on voit comment le transhumanisme s'enracine dans un imaginaire, l'imaginaire non seulement capitaliste, mais néolibéral, contemporain, avec cette idée de devenir l'entrepreneur de soi-même et de son corps, appréhender son corps, sa santé, comme des formes de capitaux à faire fructifier. Et ça, on le voit aujourd'hui, ça se multiplie à travers non seulement des applications qui permettent de contrôler les paramètres de nos corps, l'utilisation de médicaments à des fins non médicales, à des fins de performance. Bref, on voit bien, il y a une dépolitisation très très forte dans le transhumanisme. Et pour moi, ça, c'est un point vraiment central.
Mais en même temps, quand on questionne ce lien de continuité, rupture entre humanisme et transhumanisme, Frédéric Worms, vous avez justement théorisé ce que vous appelez un humanisme vital dans un livre éponyme qui est un recueil de lettres portant sur le vivant. Et dans ce livre, il y a un moment où, théorisant ce que vous appelez le vitalisme critique, vous proposez de s'en tenir philosophiquement à une définition négative de la mort. Vous prenez une philosophie qui admettrait pour principe premier l'idée que la vie est un concept un petit peu trop confus ou abstrait pour qu'on puisse le définir positivement, mais il faudrait uniquement le définir par le fait que la vie, ce sont des vivants, je vous cite, qui luttent contre la mort dans une opposition constante depuis le début et jusqu'au bout. Est-ce que le transhumanisme, ce n'est pas l'accomplissement de ce principe premier qui est au cœur de votre humanisme vital ?
Alors, merci là aussi de cette question. D'une certaine façon, le transhumanisme fait partie de ce que j'appelle en effet le moment du vivant aujourd'hui, c'est-à-dire le fait de concevoir les humains d'abord comme des vivants fragiles, menacés par par la mort. Et c'est vrai que pour nos générations, c'est une surprise, voir le retour des maladies, voir aussi le retour des guerres. C'est refragiliser l'humain qui, auparavant, comme ça vient d'être rappelé, l'humain se définissait pas par sa fragilité vitale, mais d'abord pas seulement par sa finitude, mais par sa liberté, par la raison qui fait qu'on n'est pas réductible à un corps mortel. Et ce retour de la mort, en effet, pourrait faire croire que l'humanisme se fondrait, au fond, dans une sorte de vitalisme général qui résiste à la mort en général. Or, pour moi, c'est un risque du moment présent. puisque nous sommes menacés par la mort, y compris climatique, par nous sommes en effet des vivants, nous avons un cerveau qui peut être détruit, avec lui toute la relation à nos proches et à la culture, nous faisons partie d'une planète fragile, la vie elle-même est menacée sur la Terre, donc comment ne pas se penser comme des vivants et comment ne pas vouloir en effet avoir un projet dont l'humanisme, avec des guillemets là, serait de résister à la mort en général. Or pour moi c'est pas du tout ça. L'humanisme critique ou le vitalisme critique que je défends consiste en effet à dire que le privilège paradoxal des humains, c'est qu'ils luttent contre la mort, mais contre plusieurs formes de mort. Non seulement contre la mort biologique, mais contre la mort par la violence ou par l'injustice. Et donc, en effet, il reste à définir un humanisme spécifique qui lutte non seulement contre des causes communes de mortalité, y compris avec les autres vivants sur la planète, mais aussi les causes spécifiquement humaines, y compris relationnelles, de haine, de guerre ou de meurtre. Et donc, d'une certaine façon, l'humanisme que je défends, c'est un humanisme qui garde une spécificité de l'humain, c'est la première condition de l'humanisme en philosophie, qui garde une valeur de l'humain, parce qu'il est plus fragile que les autres, et qui garde en effet cet universel de l'humain. Rien d'humain ne nous est étranger, et les humains sont des étranges êtres vivants qui peuvent mourir en effet de chagrin ou d'injustice, et aussi tuer de cette façon-là. Et c'est pour ça que cet humanisme du moment présent, cet humanisme du vivant, il court le risque d'un débordement métaphysique contre la mort en général, il court le risque aussi du désespoir, de l'anxiété écologique ou médicale, et entre les deux, il y a la seule façon d'y résister, comme ça vient d'ailleurs d'être dit, c'est aussi de retrouver les différentes facettes de l'humanisme traditionnel, mais dans la lutte contre toutes les formes de mortalité, et je dis bien toutes, car les transhumanistes n'en voient qu'une et sont prêts à faire de la guerre aux autres pour aboutir à leur immortalité personnelle. Donc voilà, c'est là qu'ils sont anti-humanistes.
Quelle meilleure illustration de ce débordement métaphysique du refus de la mort que la nouvelle « L'Immortel » de Borges dans le recueil « L'Aleph », racontant l'histoire d'un soldat romain qui découvre une source de vie, enfin une source d'immortalité, et qui fait l'expérience de cette immortalité à la fois grisante et en même temps dégoûtante.
Être immortel est insignifiant. À part l'homme, il n'est rien qui ne le soit, puisque tout ignore la mort. Le divin, le terrible, l'incompréhensible, c'est de se savoir immortel. J'ai noté que malgré les religions, pareille conviction est extrêmement rare. Juifs, chrétiens, musulmans confessent l'immortalité, mais la vénération qu'ils portent au premier âge prouve qu'ils n'ont foi qu'en lui. J'estime plus raisonnable la roue de certaines religions de l'Inde. Dans cette roue, qui n'a ni commencement ni fin, chaque vie est la conséquence d'une vie antérieure et elle engendre la suivante sans qu'aucune ne détermine l'ensemble. Exercée par un entraînement séculaire, la République des Immortels était parvenue à une certaine perfection de tolérance et presque de dédain. Elle savait qu'en un temps infini, toute chose arrive à tout homme. À cette lumière, tous nos actes sont justes. Mais ils sont aussi indifférents. Il n'y a pas de mérite moraux ou intellectuel. Personne n'est quelqu'un. Un seul homme immortel est tous les hommes. Comme Corneille Agrippa, je suis Dieu, je suis héros, je suis philosophe, je suis démon et je suis monde, ce qui est une manière fatigante de dire que je ne suis pas.
Fanny Beaucantin, dans votre livre La mort, vous réfléchissez notamment sur le fait que dans beaucoup de cultures, dans beaucoup de religions, il y a presque dans toutes d'ailleurs, une forme d'universalité de la mythologie de l'immortalité. Comment expliquer cela ?
Et parce que, en fait, la mort est impensable, hein, la mort n'est pas acceptée, donc on s'en accommode, mais de différentes manières. Je crois que c'est intéressant de citer le cas de l'épopée de Gilgamesh, qui est un petit peu originale, justement, dans cette universalité de l'immortalité, puisque c'est un récit qui est parmi les plus anciens, donc qui a été écrit il y a près de 4000 ans. C'est un poème épique qui raconte la vie de Gilgamesh, qui était un roi de Mésopotamie et qui, très meurtri par le deuil de son ami Enkidu, part à la recherche justement de l'immortalité. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que finalement, il ne laisse aucune place au doute possible. Même Gilgamesh, qui est un être extrêmement héroïque, qui est un demi-dieu, qui est extrêmement courageux, qui a su combattre les créatures les plus terribles, traverser des mondes inaccessibles, échoue à atteindre l'immortalité qui lui est refusée, puisque seuls les dieux sont immortels. Et en fait, ce récit est vraiment une leçon de vie. C'est-à-dire que l'immortalité humaine n'est pas possible, quel que soit l'héroïsme d'une vie. Et donc, du coup, Gilgamesh rentre chez lui et va mettre ce récit par écrit pour justement le transmettre cette expérience de vie à la génération suivante. Et il va aussi poursuivre la construction de la ville d'Uruk pour qu'elle soit pérenne pour les générations à venir. Et donc, en fait, ce que cela explique, c'est que la quête de l'immortalité individuelle est vraiment vouée à l'échec et l'immortalité ne peut être que celle du collectif, de l'humanité. Donc, il faut agir, vivre pour penser à la génération suivante, chérir ceux qui arrivent et qui vont permettre le monde de demain. Voilà, donc ça, c'est vraiment intéressant dans cette façon de ne pas laisser le choix, c'est-à-dire que la mort est obligatoire pour le renouvellement de la vie. Et ça, du coup, c'est quelque chose que l'on retrouve régulièrement dans les sociétés. C'est un universel. On n'a pas le choix, on meurt. Alors, la mort naturelle, déjà, n'est pas acceptée par tous. La mort est considérée souvent comme une malédiction, une vengeance dont il faut se protéger et rester toujours vigilant vis-à-vis de cette mort. Donc, ne pas baisser les bras. S'y opposer, mais bon, une fois qu'elle est là, il faut faire avec. Et surtout, ce qui est dit, c'est que finalement, quand une personne meurt, elle ne meurt pas vraiment, puisque le prolongement de la vie se fait par une vie posthume, notamment à travers l'âme qui est éternelle.
France Culture. Sans préjugés, Nathan Devers.
Frédéric Worms, tout à l'heure, vous avez émis une idée qui m'a interpellé, à savoir l'idée selon laquelle, dans la mesure où il existe plusieurs formes de mort, le mirage du transhumanisme tient à ce qu'il croit qu'il évacue la mort en évacuant simplement la mort biologique et en ne reconnaissant pas le fait qu'il y a des limites humaines qui sont incorporées à notre condition. Est-ce qu'à cet égard, on n'aurait pas raison de mettre en perspective cette utopie transhumaniste ou cette dystopie transhumaniste avec des débats qui animent en profondeur notre société, qui l'ont fait tout au long de l'année dernière notamment, à savoir les débats bioéthiques et politiques sur la fin de vie?
Oui, tout à fait. Et d'abord, pour revenir sur le début de votre question et aussi sur ce qui vient d'être dit, qui était très profond, je trouve, il m'est arrivé un jour dans un débat sur le transhumanisme de dire à quelqu'un qui disait, alors donc on va dominer la mort, c'est magnifique quand même. Oui, j'ai dit oui, peut-être qu'on pourra trouver des remèdes à tout, mais vous inquiétez pas, il y aura encore la méchanceté et la guerre, et donc on n'en a pas fini avec la mort. Je voulais dire par là qu'effectivement le négatif travaille la vie humaine, la mort est quelque chose qui peut être aussi d'ailleurs interne à nos psychismes, hein, la psychanalyse à tort ou à raison, mais en tout cas en identifiant quelque chose qu'on retrouve dans cet étrange phénomène qu'est le suicide, montre aussi qu'il y a un adversaire intime. La mort elle peut être aussi l'objet d'un désir paradoxal contre lequel il faut lutter par tous les moyens de la philosophie aussi, et de la psychologie et de la médecine, et de la société aussi, parce que le suicide peut avoir des causes sociales et des causes qu'il faut... Donc il y a un soin global, collectif, contre le négatif en général. Et du coup, effectivement, je pense moi que dans nos sociétés, on dit parfois, sous le signe du transhumanisme, que nos sociétés veulent nier la mort, sont dans le déni de la mort. On a parfois critiqué la médicalisation de la mort. Je pense qu'elle est en effet critiquable quand elle donne lieu à ces utopies qui sont aussi des fantasmes. Mais sinon, pour moi, le lieu de l'humanisme critique, le lieu de l'humanisme vital, c'est en effet les questions tragiques qui se posent quand la médecine rencontre sa limite. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller jusqu'au bout du soin et de la médecine. D'ailleurs, le soin ne s'arrête jamais, même au-delà de la mort. On l'a vu avec la question des rites funéraires qui a été magnifiquement décrite au début de l'émission. Et donc, d'une certaine manière, oui, le tragique n'a pas déserté nos sociétés modernes. La fin de vie, c'est aussi l'acceptation des limites de la médecine. C'est quand il y a de l'incurable. Et quand il y a de l'incurable, on rencontre aussi la question de la liberté, du dialogue entre le patient et le médecin. Et donc, oui, cette question tragique de la fin de vie qui ne peut être donnée lieu à ce qu'on appelle l'aide à mourir dans les projets de loi qu'après tous les soins et au fait, c'est encore de l'ordre, c'est pas un soin, mais c'est une aide, donc c'est encore dans une logique relationnelle. On n'a pas le temps d'entrer dans le détail. Disons juste que c'est le signe que la question du transhumanisme n'est pas la seule qui est dans le débat public aujourd'hui sur la mort. C'est un des lieux du rapport entre l'humain technicien, l'humain social, l'humain moral et l'humain métaphysique. Mais il y en a d'autres, et cette question des débats tragiques de la fin de vie, et j'insiste sur le tragique, de même que les questions de légitime défense ou de guerre juste d'ailleurs. Qu'est-ce qu'une guerre juste ? Comment est-ce qu'on peut transgresser les interdits de manière qui ne soit pas totalement injuste ? Ces questions du tragique de la mort sont encore présentes. Et donc, il ne faut pas, en effet, que l'arbre du fantasme transhumaniste masque la forêt du tragique qui persiste au cœur de nos villes et de nos vies.
Il y a un autre effet de miroir ou de contraste entre ce fantasme transhumaniste et le tragique dont vous parlez, Frédéric Worms. C'est que, par principe, cette idée d'une vie qui n'aurait plus de limites se heurte à la grande question de notre temps, qui est celle que la nature nous révèle chaque jour davantage que la veille, le fait qu'elle est ontologiquement limitée et qu'elle nous appelle à une prise de conscience écologique. Nicolas Ledévédec, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à ce que le transhumanisme, qui ne se limite pas d'ailleurs à l'abolition de la mort, cette vision de l'homme augmenté, entend aussi, en tout cas chez certains défenseurs du transhumanisme, il y a des chercheurs qui veulent rendre le corps humain moins polluant, c'est-à-dire utiliser le transhumanisme afin de servir l'écologie. Est-ce que ce n'est pas paradoxal ?
Ouais, ben c'est pour moi surtout révélateur d'une perspective du sans limite, surtout d'une fuite en avant technosolutionniste qui caractérise fondamentalement le transhumanisme. À chaque problématique qui est posée, politique, sociale, écologique, il y aura une solution technique. Or, pour moi, c'est ça principalement le problème. Ce que le transhumanisme, en tout cas ses idéaux aussi d'immortalité, ça témoigne d'une incapacité aujourd'hui à penser effectivement la question des limites dans un monde capitaliste gouverné par l'idée de maîtrise et de croissance illimitée. C'est ça qu'il faut vraiment interroger pour moi derrière. C'est le modèle de société. Ce qui me frappe à travers mes recherches, c'est vraiment ce décalage immense aujourd'hui entre les grandes promesses technologiques de vie éternelle et la réalité politique, sociale et surtout écologique du monde actuel. On est quand même face, il faut le rappeler, à une dégradation écologique, politique de nos existences sans précédent. Effondrement des écosystèmes, explosion des maladies chroniques, hausse des cancers chez des populations de plus en plus jeunes. On est dans un contexte vraiment qu'on dit de polycrise, de multicrise. Et je tiens à rappeler aussi que la crise écologique aujourd'hui, c'est une crise de nos corps qui affecte l'humain en tant qu'il constitue un être vivant. Donc il y a une forme d'épuisement aujourd'hui généralisé, aussi bien de la planète, du vivant que de l'humain. Et donc, on pourrait dire que la réalité contemporaine, elle est à mille lieues d'une extension de notre espérance de vie. Et dans le même temps, de cette crise écologique qui nous affecte, on nous parle d'immortalité, de vie jusqu'à 200, 300 ans, etc. On est vraiment dans une mystification complète. C'est pour moi tout sauf de la science, évidemment. C'est une forme quasiment de religion, de substitution. Car cette promesse, enfin cette quête d'immortalité, moi, je la vois vraiment comme un nouvel horizon du progrès qui légitime complètement le modèle de société capitaliste et qui nous détourne de l'urgence de remettre en cause ce modèle de société qui est proprement insoutenable. Il y a vraiment aujourd'hui une exploitation de l'humain à tous les niveaux et pas juste de la nature, c'est la nature humaine aussi, hein, l'exploitation du corps humain, des ressources biologiques humaines, tout ce qu'on appelle le biocapitalisme, la marchandisation du corps, bref. C'est un peu tout ça dont il est question et qu'on souhaite à chaque fois avec le transhumanisme finalement qu'on invisibilise avec cette idée de fuite en avant, avec cette idée qu'on pourra tout maîtriser, repousser les limites. Je le dis souvent, pour moi le transhumanisme c'est vraiment un idéal extraterrestre. On est vraiment dans cette idée qu'on peut s'émanciper des conditions terrestres. D'ailleurs il y a l'idée de coloniser l'espace, mais c'est une illusion qui invisibilise les formes aujourd'hui très matérielles d'exploitation et de dégradation de nos existences. Sans compter, peut-être, j'ajouterais aussi, les conséquences, je dirais, sociales aussi de ce type de discours sur notre représentation du vieillissement. L'imaginaire transhumaniste, enfin, en tout cas, il y a une stigmatisation très, très forte du vieillissement. On associe le vieillissement, la mort, à des problèmes à résoudre, à des maladies qu'il faudrait guérir. Comme si, finalement, la vieillesse, la mort, c'était était considéré comme un échec aujourd'hui de la médecine. Bref, je trouve ce type de discours extrêmement problématique et dangereux. Et je pense que l'urgence, c'est pas de repousser les limites de l'humain. Le problème, c'est pas l'humain, c'est pas la mort en tant que telle. Le problème, c'est notre modèle de société aujourd'hui capitaliste qui nous conduit vraiment à une impasse aussi bien politique, sociale et écologique. Et je pense qu'il y a une urgence de bifurquer et comme le proposent d'autres courants de pensée, justement. On peut parler de l'écologie politique, de l'écoféminisme, qui nous invite à repenser différemment notre lien et même la question de l'émancipation en lien avec notre condition terrestre, avec les conditions vitales d'existence.
Ce que je trouve très frappant en vous écoutant, quand vous parlez de cette fuite en avant du transhumanisme qui s'oppose, et ce modèle extraterrestre qui s'oppose à la question écologique, c'est que pour faire écho à ce que vous disiez, Fanny Beaucantin, au tout début de cette émission, vous rappeliez que la fête des morts, c'était un moment de contact entre le monde des vivants et le monde des morts. Et aujourd'hui, il y a une émergence d'un nouveau modèle de cimetières concrets, qui sont des cimetières plus paysagers, ou plus écologiste ? Et est-ce que ce n'est pas ça, finalement, le modèle moderne du rapport entre les vivants et les morts ?
Mais oui, il faudrait tendre vers ça. C'est vrai que il y a cette injonction aussi qu'on évoque du cadavre à être éco-responsable. Alors le cadavre, il est totalement éco-responsable, hein, il est biologique. Ici, le problème, c'est que la décomposition maintenant prend plus de temps, notamment à cause des traitements médicaux, mais aussi parce que les terres sont de plus en plus pauvres. Et en fait, c'est à ça qu'il faut s'attaquer, plus qu'à faire disparaître nos morts. Parce que l'idée, c'est d'essayer d'accélérer la décomposition, de broyer les eaux pour en faire du compost, etc. Donc, pourquoi pas ? Après, il faut aussi réfléchir un peu, justement, où est-ce qu'on peut rencontrer nos morts encore physiquement ? C'est quelque chose d'important. Ne pas les faire disparaître totalement, puisque de toute façon, ils vont rester avec nous et qu'il faut avoir des lieux, des rites, des possibilités pour faire face à ces difficultés de vivre en fait avec l'absence. Voilà, et donner encore une place à nos morts parce que on sait que c'est en s'appuyant sur ces références que finalement on grandit, on apprend de la vie et dont on a toujours besoin finalement de faire appel à eux.
Le mot de la fin en quelques secondes, Frédéric Worms, est-ce que c'est ça la clé de cette éthique vitale à construire ?
Le mot de la fin, oui, ce serait de dire qu'il ne faut pas que ce soit tout ou rien, c'est-à-dire qu'il faut un vitalisme critique qui marque des seuils, des limites. Je pense qu'il y a un délire effectivement de l'immortalité par la technique et en même temps, le progrès de l'espérance de vie reste un de nos critères concrets de progrès. C'est vrai que quand même, le vieillissement, notamment en bonne santé, qui est évidemment encore à améliorer, il faut garder ce sentiment de la limite, cette ambivalence structurelle de la vie, à la fois refuser la mort et l'accepter. Ne pas croire qu'on va l'abandonner ou la dépasser définitivement, mais continuer quand même à s'y opposer sous toutes ses formes, et donc quand même aussi par la médecine et aussi par les progrès de l'espérance de vie, le progrès de la vie humaine, relationnelle, culturelle et symbolique.
Merci beaucoup à vous trois pour cette émission. Merci beaucoup à Aline Biette qui l'a préparée, à Souad Boukorsa qui l'a réalisée et mise en onde. Vous pouvez la retrouver sur le site et l'application de Radio France. À bientôt.